ses facettes.
L'avant-match.
Dans l'avant-match,
voici
Louis-Jean.
Salut Louis, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, ça va bien, ça va très bien. Est-ce que, et là, je suis très content de parler à un gars qui habite la rive nord de Montréal et qui travaille au centre-ville. Comment ça se passe à Montréal depuis que le Canadien gagne? Et là, tu vas dire, t'es baveux, là, ils en ont perdu 8 de suite, puis là, t'es en train de dire qu'ils gagnent tous leurs matchs. Non, c'est que, souviens-toi, Louis, il y a à peu près 10 jours, les gens parlaient de pourcentage à la loterie, puis Alexis Lafrenière, on le trouve bon, puis on veut l'avoir. Puis là, le Canadien gagne à Ottawa, Kovalchuk marque le but gagnant. Hier, jeu blanc contre Calgary. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les gens à qui t'ont parlé plus de série que de loterie.
Oui, tu as tout à fait raison. Et même hier, à l'émission de Dave Morissette, Dave a posé la question, est-ce qu'il y a encore une chance? Est-ce que ça... Je dis, attends une minute, là, arrête! Faut arrêter, là, je veux dire, à mi-chemin de la saison, tu sais ce que ton équipe est. Est-ce que c'est une équipe vraiment que tu crois en elle, qui a des chances vraiment, ou est-ce que c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la fin, mais que ça va être difficile, ou est-ce que... Non, le Canadien, on le sait. Le Canadien ne fera pas des séries cette année. C'est la réalité de cette équipe-là. Le Canadien de Montréal vient de gagner 2 matchs, mais de peine et de misère. Ils ne sont pas capables de marquer des buts, mais c'est la réalité, c'est ça. Il y a 56 000 facteurs. Alors, pour ceux et celles qui se lèvent après une victoire et disent « Là, on a une chance », et après 8 revers de suite, disant « Ben là, c'est terminé, on essaie d'aller gagner le derby, la Lafrenière », non. Je veux dire, le Canadien de Montréal, ils sont exactement ce qu'on s'attendait d'eux. Une équipe qui, on croyait allait se battre, les blessures ont venu compliquer à patente, c'est des joueurs qui ont superformé. Et non, on oublie ça, là, il n'y aura pas de série cette année.
OK, donc pas de série, ça veut dire échanger des joueurs d'impact. Tu sais que j'ai été sévère dans les dernières années envers Marc Bergevin. Si Marc Bergevin, d'ici le 24 février, ou l'été prochain, ou la saison prochaine, avant la date limite des transactions, échange Carey Price, je dirais en onde que Marc Bergevin est un excellent directeur gérant.
Mais là, il y a juste une chose que tu ne mentionnes pas. Tu t'ouvres à une zone grise. Est-ce que Marc Bergevin va aller voir Carey Price pour l'échanger? Je pense pas. Je pense que Marc Bergevin, lui, il est encore en poste parce qu'il dit à son propriétaire, fais-moi confiance, je vais ramener l'équipe sur les rails. Et la manière que je vais le faire, c'est en gardant le 31 devant le filet, c'est en gardant le 6 à la ligne bleue. Alors, est-ce que Carey Price pourrait être celui qui va voir l'équipe? Ça, c'est différent. Moi, je ne vois pas un scénario où le directeur général décide lui-même, sais-tu quoi, pour le bien de l'équipe, à long terme, il faut que je change Carey Price. Je ne vois pas ça arriver.
Pourquoi, Louis, selon toi?
Je pense que c'est pas du tout.
Pourquoi, Louis, selon toi, il ne fera pas?
Parce que premièrement, ça serait clairement un constat d'échec. Je pense que, en termes, c'est de valeur, là, tu ne devrais pas prendre des décisions comme ça. Tu ne devrais pas dire, écoute, là, hey, j'avais dit que je le ferais de cette façon-là, puis ça ne marche pas, mais là, hein, je vais avoir l'air de quoi. Mais je pense que ça paraîtrait, là, ça démontrerait que le plan ne fonctionne pas. Le deuxième plan qu'il est en train d'essayer d'exécuter actuellement ne fonctionnerait pas plus. Ce serait ça essentiellement. Alors lui, la légitimité qu'il a comme directeur général, je pense qu'il la perdrait. Et la confiance peut-être aussi auprès du propriétaire. Je dis ça, je te dis ça, là, c'est moi qui analyse froidement la situation. On me l'a pas dit, mais je sais une chose, que lui, son plan tourne autour de on essaie de faire des séries à tout prix, on essaie d'entrer des jeunes, on essaie de ne pas se tromper dans nos transactions, dans nos sélections en repêchage et dans notre développement. Et c'est comme ça qu'on va devenir compétitif. Et je comprends un peu aussi sa logique. Il juge que lui, il a le meilleur gardien au monde. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça, selon lui, qui se dit on est meilleur que tout le monde dans une chose, le goaler. Là, tu peux me dire, attends, il n'a pas bien joué le gardien de but en partie cette année. Tu as raison, mais ça ne change pas le fait qu'à son meilleur, quand il performe comme il est supposé faire, il mérite son 10,5 millions par année. Maintenant, on peut commencer à débattre de tu devrais-tu payer un gardien tant que ça? Ça, c'est une autre affaire.
Non, ça, c'est une autre affaire.
Mais lui, c'est une autre affaire.
On va pas là ce soir.
J'ai deux affaires.
Okay.
J'ai deux choses, moi. J'ai un capitaine puis un leader, un vrai de vrai. Oui. J'ai un gardien de but. Alors, je vais bâtir autour de ça.
Par contre, les discussions dans les bars sportifs à la grandeur du Québec, de Rouyn-Noranda à Gaspé en passant par Trois-Rivières-Ouest, c'est toujours les mêmes. ta boîte de courriel est pleine, la mienne est pleine également, d'amateurs de hockey qui nous disent « Dan, Louis, Marc Bergevin nous dit qu'il va être bon dans 3-4 ans, mais dans 3-4 ans, son goaler et son capitaine vont être trop vieux. Donc, pourquoi ils les échangent pas maintenant, pendant qu'ils ont une valeur? »
Ça, c'est la grande question, et c'est là où moi, je ne comprends pas. Je vais t'avouer, là, je regarde cette équipe-là aujourd'hui. Mettons, j'achetais le plan en début de saison, je me dis, OK, je comprends. On va voir ce que ça va donner. Mais là, à la lumière de ce qu'on voit maintenant, on est à la mi-saison, je me dis, garde, va chercher quelque chose. T'as ton capitaine qui s'en va au match des étoiles. Sa valeur, ça veut dire quoi, Dan? Qu'elle est bonne actuellement? Ça veut dire qu'il joue bien? Puis, il n'a pas volé là, son poste. Il n'a pas volé sa candidature. Alors, moi, je comprends ce qu'il apporte dans le vestiaire. Je comprends encore ce qu'il apporte sur la glace chez Weber. Je comprends aussi ce que Carey Price peut être. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec les partisans qui se disent « ça me semble être un non-sens ». Parce que la réalité, là, est-ce que je crois que le Canadien va gagner la Coupe cette année? Non. Est-ce que je pense que le Canadien va la gagner l'année prochaine? Non. Est-ce que je pense que le Canadien va la gagner dans 3 ans? La réponse est encore non. Alors, pourquoi tu gardes des gars comme ça qui, dans 4 ans, peut-être, vont pouvoir t'aider à gagner le Coupe Stanley? Est-ce que tu crois que Weber va vraiment être encore capable de contribuer puis de jouer 26 minutes, 25 minutes par match? Est-ce que tu penses que Carey va pouvoir en jouer 65 par année encore rendu là et être dominant? Sincèrement, c'est là-dessus où moi, je me dis, ça ne fit pas, ça ne marche pas.
Exact. Surtout que si on ajoute... Si on ajoute 4 ans, parce que là, les 3 premières années, tu as répondu non à ta propre question. Donc, si on ajoute 4 ans à 32 ans, ça donne 36. Puis si on ajoute 4 ans à 34 ans, ça donne 38 pour Weber.
Exact. Exactement. Alors, je veux dire, c'est pour ça que je me dis, je sais pas si on s'entête ou si on se dit, garde, on est capable de... Et on mise énormément sur le repêchage. On en a parlé la semaine passée. Peut-être qu'on se dit, on n'a pas le choix cette année au repêchage de trouver une façon d'être convaincant, d'aller chercher des joueurs autonomes le 1er juillet, d'avoir un repêchage où on fait quelque chose qui va être extraordinaire, des feux d'artifice. Mais, tu sais, c'est-tu... On croit-tu au Père Noël? Est-ce qu'on, je veux dire, je sais pas trop, là. C'est là où... Moi, je connais pas les plans à l'interne. Je sais pas tout ce qui a été étalé, mais ce que je vois actuellement, j'ai de la misère à comprendre où ça va aboutir.
OK. Les 2 séquences de 8 défaites, c'est évidemment pas commun, puis c'est rare qu'un entraîneur-chef garde son emploi au sortir de 2 séquences de 8 défaites, mais tout le monde a l'air d'avis que c'est pas de la faute de Claude Julien, et je fais partie de ces gens-là. Parfait. Donc, c'est pas de la faute de Claude Julien, il faut que ça soit de la faute de quelqu'un. On va se tourner vers Marc Bergevin, mais ça, on en a déjà parlé en onde. Je veux juste insister sur le fait que j'ai l'impression qu'Alexis Lafrenière, le fait que ce soit un Québécois, que le repêchage soit présenté le 26 juin au Centre Bell cette année, comme par hasard, le timing est parfait pour le jeune Lafrenière, j'ai l'impression que cette vision de voir l'équipe descendre et l'espérance que le Canadien parle le plus rapidement possible au repêchage, c'est comme si c'est venu faire distraction à la mauvaise saison du Canadien et on oublie de voir que le Canadien n'a pas de profondeur finalement. Au camp d'entraînement, on nous vendait l'espoir par les jeunes. On nous disait, Kotkaniemi, Suzuki, Fleury, Poehling, ça va bien aller. Le Canadien de la profondeur, ça déborde à Laval. Ils font un fil, prendre le métro pour s'en venir au Centre Bell, les joueurs du Rocket. Mais finalement, le Canadien n'a pas de profondeur. On a la preuve cette année, aussitôt que Drouin et Barron ont été blessés, ça a été la fin pour le Canadien. Ça, c'est un drame. Et à ce drame-là, il faut viser Marc Bergevin.
Oui, ben, je veux dire, c'est clair qu'il est responsable d'avoir... d'avoir établi une culture, d'avoir été chercher des joueurs, d'avoir bâti une équipe. Est-ce que le développement faisait défaillance? Je pense qu'à ses débuts, oui, aucun doute. C'est quelque chose à laquelle on s'est attaqué clairement maintenant. Juste pour répondre au début de ta question, tu parles de Claude Julien, j'abonde dans le même sens que toi, là. Si les Canadiens de Montréal se faisaient planter 8-1 à tous les soirs, ce serait une chose. Si le Canadien, tu voyais qu'il n'y avait pas de structure ou de système de jeu, ça serait une chose. Ce ne sont pas les indicateurs qu'on a. Alors, on vient de régler la question sur Claude Julien, même si en même temps, quand tu perds 8 de suite, tu pointes le doigt au directeur général, tu pointes le doigt aux joueurs, aussi inévitablement, il faut que tu pointes le doigt à l'équipe d'entraîneurs. Ça fait partie de la business, c'est normal. Maintenant, la profondeur, c'est sûr que c'est un peu problématique, mais quand tu décides d'y aller avec des jeunes, c'est pas comme si, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu repêches Kotkaniemi et tu as l'impression qu'en cliquant des doigts, ce gars-là, parce qu'il est troisième au total, il va dominer. Tu as l'impression que parce que Ryan Poehling, l'année passée, il est joueur par excellence au championnat junior, et puis il arrive à son premier match dans la Ligue nationale de hockey, il fait tout feu, tout flamme, tu vas cliquer des doigts, puis ce gars-là, qui n'a jamais marqué avant, va devenir un joueur, une star offensive. Je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. OK? On ne vit pas dans un monde de rêve, c'est pas Hollywood où on écrit des scénarios qu'on veut, et puis la fin va toujours être heureuse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Développer des joueurs, ça prend du temps. Donner des chances aux jeunes, ça veut dire qu'ils vont commettre des erreurs. Ça veut dire que tu vas probablement être frustré souvent au début avant qu'ils finissent par comprendre ce que c'est la Ligue nationale de hockey, ce que c'est la meilleure ligue au monde. Alors, c'est pour ça. Alors, tu sais, oui, il y a nettement plus de profondeur qu'il y en a eu. Il n'y en a jamais autant que le monde le pensait, ça, c'est certain.
Quatrième saison sur cinq où l'équipe va manquer les séries. Pour vous, à TVA Sports, évidemment, c'est un drame parce que vous êtes détenteur des droits pour les matchs des séries particulièrement et pour les matchs du samedi en saison régulière. Il y avait des bancs vides jeudi dernier contre les Oilers et un certain Connor McDavid qui était de passage. Là, les défaites accumulées année après année, ça va commencer à paraître au niveau financier pour le Canadien.
Ça va paraître, c'est sûr. Moi, je suis convaincu qu'on est là depuis un certain temps. Je veux dire, le problème, au-delà de tout ça, là, au-delà du côté business et tout ça, c'est dans le cœur des partisans, tuer encore l'équipe du peuple, tuer encore l'équipe qui est dans les tripes. Ça demeure, là. C'est au-delà de l'impact de Montréal, c'est au-delà des Alouettes. Ça, je pense que c'est indéniable. Mais il commence à y avoir un pourcentage, un groupe de fans qui sont un peu résignés, qui commencent à se dire, regarde, là, c'est ça le Canadien. Le Canadien, c'est plus l'équipe qui a gagné 24 Coupes Stanley, puis ils sont rendus au point qu'ils disent, regarde, on va aller au Centre Bell, non pas pour voir le Canadien, on va aller au Centre Bell quand on a la chance de voir Connor McDavid, ou Sidney Crosby, ou Alex Ovechkin, ou Nathan MacKinnon, et ça devient très dangereux. Quand tu arrives au point où le monde ne va plus te voir pour regarder leur équipe, ils vont là pour voir l'autre équipe, c'est un problème. Et c'est là que je pense que le Canadien, il y a une prise de conscience qui doit se faire. Tu ne peux plus te permettre de faux pas comme organisation. Tu dois rebâtir et tu dois surtout espérer que, ce que tu mentionnais tout à l'heure, le plan que tu as décidé de bâtir autour de Price et Weber, t'es mieux de ne pas te tromper parce que ça pourrait te faire mal pour des années à venir.
Oui, puis, tu sais, à un moment donné, les partisans qui boudent le Centre Bell, c'est parce qu'ils sont tannés que l'équipe perde. S'il y a 3-4 ans, je t'avais dit, le DG Marc Bergevin va décider volontairement de garder un montant variant entre 6 et 9 millions de dollars sous le plafond pendant 3-4 saisons. Tu m'aurais dit, ah, c'est impossible, Dan. Le Canadien, c'est une équipe riche, c'est une équipe qui dépense, c'est une équipe qui donne de bons contrats. Ils vont s'arranger pour être compétitifs. Il y a une tradition d'excellence. Impossible que Bergevin fasse ça. À vous, Louis, si je t'avais dit ça il y a 5 ans, tu m'aurais dit, ça arrivera pas 3 ans de suite où il va avoir un 6, 7, 8 millions sous le plafond de disponible dans le compte chèque. Pourtant, c'est ça qui vient d'arriver.
C'est ça qui vient d'arriver, mais je ne pense pas qu'on le fasse. Et là, je suis peut-être naïf, là. Corrige-moi si tu penses que je suis complètement dans le champ gauche. Mais je ne pense pas que le Canadien le fait pour dire, regarde, on n'est pas compétitif, on ne gagne pas, mais au moins, on sauve de l'argent. Je ne pense pas que ce soit ça le bien fondé. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas vu les opportunités, on n'a pas été capable d'attirer les joueurs qu'on aurait souhaité attirer, et on ne veut pas se tromper. Et ça, de ce côté-là, honnêtement, c'est sage. Tu sais, je vais faire un parallèle. Les Sénateurs d'Ottawa, il y a quelques années, se rendent en finale de conférence. Tu te rappelleras, 7e match en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh. Ce club-là, avec le propriétaire, c'est un club qui fait extrêmement attention à ses sous. Tu peux pas me dire que les Sénateurs n'auraient pas pu, eux autres, faire appel et utiliser un joueur de 6 ou 7 millions ou deux joueurs de 3,5, mettons, qui les auraient peut-être aidés à aller en finale cette année-là. Mais le propriétaire, lui, jugeait non. On va garder le 8 millions, je le mets dans ma poche.
Oui, mais
le Canadien n'aurait pas fait ça.
Non, mais ça, c'est une situation où les Sénateurs en arrachent. Il n'y a personne dans l'aréna et tout. Le Canadien, c'est une équipe riche.
Non, mais écoute, cette année-là, ils sont quand même allés en finale de conférence. Et il y avait un gars qui s'appelait Eric Carlson. Il y avait Mark Stone. Il y avait une bonne équipe. Il y avait Derek Brassard qui venait d'aller chercher. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là avait des éléments. Et il y avait des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Il y avait des chances. Il y avait vraiment une chance. Et il essayait aussi d'attirer, de garder leur joueur vedette qui s'appelle Eric Carlson, qui est rendu maintenant avec les Sharks de San Jose. Le Canadien ne ferait pas ça.
Non,
mais le Canadien est assez lucide pour voir, on n'est pas là, on va pas gaspiller de l'argent. De ce côté-là, je vais t'avouer là qu'il faut que tu t'assures. Je dis pas qu'il n'y aurait peut-être pas dû trouver une façon, mais je pense que tu es mieux de prendre les bonnes décisions au lieu de te tromper puis de donner, mettons, trop d'argent à un joueur. Un Radulov que des fois on voit à Dallas, des fois il n'a pas l'air motivé, est-ce qu'on l'aurait regretté celle-là? Je ne sais pas.
Probablement. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient que 5 ans, c'était trop pour Radulov. Il restait deux ans de jus dans la canne de jus d'orange. Sauf que là où on se rejoint pas, Louis, sur ce sujet-là du 7 millions qui reste sur le plafond, quand tu dis que c'est sage de pas dépenser l'argent si on réussit pas à la dépenser de la bonne façon, moi, je trouve à l'inverse que ça envoie un mauvais message aux partisans. Les gens qui paient ton billet très cher pour aller voir ton équipe, ils ont l'impression que ton DG fait pas les efforts pour améliorer l'équipe dans une séquence où l'équipe va manquer les séries 4 fois sur 5.
Mais le problème avec ça, c'est que si tu... Je comprends, là, je suis parfaitement d'accord. Tu sais, sur le fond, OK, parfait. Mais ce que tu essaies de faire, et Marc Bergevin, sincèrement, lui, sa vision, c'est « je veux le faire de la bonne façon. Je me suis trompé, puis je me suis trompé plusieurs fois là depuis le début de mon règne ici à Montréal. Là, j'ai quelque chose en tête. Là, je vois le plan, là, et je vais l'exécuter. Et je ne peux pas juste donner un anan aux partisans juste pour leur donner un anan. C'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que si j'amène un gars, je l'amène pour les bonnes raisons. Si je signe un joueur, c'est parce que je pense que ce gars-là, il cadre dans ce qu'on veut faire à moyen, à court et à long terme. Et je pense vraiment, écoute, sincèrement, je pense que Marc, là, il y a bien des choses qu'il pourrait faire qui l'aiderait en termes de sa cote populaire. Puis préfère pour peut-être mieux paraître par moment. Puis sais-tu quoi? Il se dit non. Je vais le faire, moi, vraiment, ce que je crois être la bonne décision pour l'organisation, que je sois là ou non. Et ça, je suis convaincu de ça. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'être toujours d'accord avec la philosophie, d'accord avec l'approche, mais je pense que lui, là, il est convaincu de ça et il va vraiment prendre la meilleure décision pour l'organisation, même s'il est mis dehors demain matin.
Je comprends. Mais on est dans une business de résultats. J'y souhaite d'être encore là dans 3-4 ans quand il dit que son équipe va être bonne.
Mais sais-tu quoi? Les résultats, il faut qu'il les mette de côté pour 3 ans. C'est ça la vraie réalité dans tout ça.
C'est trop long.
C'est pour ça que moi, je me dis, pourquoi Price? Pourquoi Weber encore? Trop long, c'est pas trop long. Je veux dire, si tu veux bien repêcher puis bien développer, là, Paling, il va être bon à 24 ans. Puis
il y a rien qui nous garantit. Un instant, il n'y a rien qui nous garantit que Paling va être bon dans 24 ans. Ça, c'est ce que Marc Bergevin souhaite.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu les as bien repêchés, si tu crois en ces gars-là, ils ne sont pas supposés avoir un impact aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'ils sont supposés de vraiment devenir tes leaders, tes gars qui marquent à tous les soirs. C'est dans 2-3 ans d'ici.
Mais y a
c'est
rien,
ça que je veux dire.
Oui, mais il n'y a rien qui te garantit qu'il va avoir un impact tous les soirs dans 3-4 ans.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu bâtisses une équipe. Bon, je te parle de Paling, je te parle de Kotkaniemi, de peut-être Cole Caulfield qui va arriver, des autres. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu bâtis une équipe, il y a un choix avec McKinnon, il va pas bien. C'est Rantanen qui fait la job, ou c'est Landeskog, ou c'est un autre.
Hey, attends pas, t'es pas en train de comparer Paling puis Caulfield à McKinnon puis Rantanen?
Non, ce que je veux dire, c'est que je te parle d'une équipe. Ben non, je suis pas en train de comparer Paling à ces gars-là.
Pas pour
2 secondes. Paling, c'est un 3e trio.
OK, garde-toi ça pour lundi prochain. Bonne soirée, Louis.
C'est bon, merci, Dan.
Salut, bye.